les hiérarchies spirituelles et leur reflet dans le monde physique. Troisième conférence, au matin du 13 avril 1909. À la fin de la conférence précédente, certaines pensées, certaines questions ont pu se présenter à votre esprit à propos du règne qui est, pour ainsi dire, le plus bas dans la série des hiérarchies spirituelles. C'est bien naturel, car par rapport à la manière habituelle de penser et de se représenter les choses, une grande partie de ce qui a été dit peut paraître tout d'abord sujette à caution et assez inexplicable. La suite de ces conférences mettra en lumière certains points. Revenons pourtant dès aujourd'hui sur l'un d'eux, afin que vous sachiez dans quel état d'esprit il faut aborder ce genre de connaissances. On peut se poser par exemple la question suivante. Si vraiment on libère un être ensorcelé dans une pierre, en pensant à celle-ci, en y réfléchissant, que reste-t-il alors dans cette pierre? Que s'est-il réellement passé? Cet être y est-il encore? Et le suivant qui vient à son tour et passe par le même processus, que devient-il? Nombreux sont ceux qui pourraient se poser ces questions. Et il faut bien dire que ces choses ne peuvent guère être comprises par l'homme avec la pensée dont il use habituellement sur la terre. Car tout est voilé ici-bas, tout est enveloppé de Maya, et les choses prennent pour cette pensée un aspect très différent de celui qu'elles ont en réalité. Ce n'est pas la faute des faits si les questions restent sans réponse. Elles sont souvent mal posées, mais avec le temps, nous apprendrons à les poser correctement. Les choses se présentent déjà sous un jour très différent quand on peut soulever le voile d'illusion qui les couvre. Sur la terre, tout se confond, ce qui induit sans cesse en erreur la pensée des hommes. Pour se faire une idée plus juste de ce dont il s'agit ici, il faut remonter très haut dans le passé. De même que l'homme passe d'incarnation en incarnation, de métamorphose en métamorphose, tous les êtres de l'univers, du plus petit au plus grand, s'incarnent et se réincarnent. Il en est de même pour la Terre, pour cet être planétaire. Notre Terre n'est pas née en tant que Terre. Elle a été précédée par un autre état. De même qu'une vie humaine est la réincarnation d'une vie antérieure, la Terre est la réincarnation d'une planète qui l'a précédée et que nous appelons Lune. Il ne s'agit pas de la Lune actuelle, qui n'est qu'un reste, un déchet de l'ancienne, mais d'un état antérieur de notre Terre. Cette ancienne Lune a existé jadis, puis elle a passé par une phase spirituelle, qu'on appelle d'ordinaire pralaya, de même que l'être humain passe par un état spirituel après sa mort. Et, tout comme l'homme, cette planète lunaire est née de nouveau. Mais cet ancien état lunaire n'était que la réincarnation planétaire d'un état antérieur, que nous appelons l'ancien Soleil. Celui-ci, qui n'était pas le Soleil actuel, mais un être tout différent, était lui-même la réincarnation du plus ancien état planétaire auquel nous puissions remonter en parlant des incarnations de la Terre. C'était l'ancien Saturne. Il s'agit donc de quatre incarnations successives de la Terre, Saturne, Soleil, Lune, Terre. Or, chaque état planétaire a une mission spéciale. Quelle est la mission de la Terre? Elle consiste à rendre possible à celui que nous appelons aujourd'hui l'homme son existence d'être humain. Tout est organisé sur la Terre de façon à ce que l'homme puisse y devenir un moi, ce qui n'était pas le cas dans les états antérieurs à l'existence desquels il a participé. L'homme n'est devenu un être humain au sens actuel du mot que sur la Terre. Chacun des états planétaires précédents a eu aussi une mission analogue. Sur ces autres planètes, d'autres êtres sont devenus hommes, des êtres qui sont aujourd'hui à un niveau d'évolution supérieur à celui de l'homme. Vous vous souvenez peut-être que dans le christianisme et les mystères de l'Antiquité, il est dit qu'un sage égyptien a révélé au grec Solon une étonnante vérité, c'est-à-dire qu'autrefois, les dieux ont été des êtres humains. Cette connaissance fait partie des vérités enseignées dans l'Antiquité aux disciples des mystères. Les dieux, qui sont aujourd'hui dans les hauteurs spirituelles, disait-on, n'ont pas toujours été des dieux. Ils ont évolué. Ils ont jadis été hommes, c'est-à-dire qu'ils ont passé par le stade d'humanité. De là découle forcément une vérité dont les disciples des mystères tirait une conséquence hardie. C'est que les hommes, à leur tour, deviendront un jour des dieux. Et c'est à cause de cette conséquence que la vérité elle-même était considérée comme dangereuse. Car il est nécessaire d'y ajouter que l'homme ne peut devenir un dieu que s'il a acquis la maturité voulue. S'il s'imagine, à un moment donné, trouver le Dieu en lui avant d'avoir acquis cette maturité, il ne deviendra pas un Dieu, mais un fou. Deux voies s'ouvrent donc devant l'homme. Aller avec patience vers ce que Denis l'Aréopagite appelle la déification, ou se figurer par anticipation qu'elle est déjà accomplie. La première voie conduit vraiment à la déification, l'autre à la folie. Les termes employés dans l'Antiquité suscitent souvent des malentendus parce qu'à notre époque, on ne sait plus distinguer entre les différents degrés des entités divines. Lorsqu'il parlait des dieux, l'initié égyptien n'avait pas seulement en vue un groupe d'êtres divins, la divinité, mais toute une série hiérarchique d'entités divines. Denis l'Aréopagite, ainsi que les sages de l'Orient, savait bien faire des distinctions entre ces entités. Peu importe que l'un ait parlé d'ange et les autres de Dhyan Chohan, car ceux qui reconnaissaient vraiment l'unité de la sagesse universelle savent qu'il s'agit simplement de noms différents pour la même chose. Les êtres invisibles qui se trouvent immédiatement au-dessus de l'homme, qui ont atteint un degré d'évolution supérieur au sien, sont appelés dans l'ésotérisme chrétien anges, angeloi ou messagers, car ce sont les messagers des mondes spirituels. Ceux qui sont plus élevés d'un degré, c'est-à-dire à 2 degrés au-dessus de l'homme, on les appelle archanges, archangeloi ou esprits du feu. Puis viennent des êtres qui, s'ils ont évolué d'une façon normale, sont d'un degré au-dessus des archanges. Ce sont les esprits de la personnalité, force des origines, archaï ou arché. Ces 3 groupes d'êtres qui sont immédiatement au-dessus de l'homme ont tous 3 franchi leur stade humain. Ils ont tous été hommes. Si l'on voit la chose d'après les temps cosmiques, ce stade humain n'est pas très loin dans le passé pour ceux qui sont anges aujourd'hui, car ils étaient hommes sur l'ancienne lune. Les archanges ont passé par ce stade sur l'ancien soleil, et les principautés ou esprits de la personnalité sur l'ancien Saturne. Ces entités se sont élevées par degrés au-dessus de l'humanité. Elles sont plus hautes que celles-ci dans la série des hiérarchies. En considérant du point de vue spirituel l'ensemble des règnes de l'univers, nous avons donc les règnes minérales, végétal, animal et humain, qui sont visibles sur la Terre. Puis, dans l'invisible, le règne des anges, celui des archanges ou esprits du feu, et celui des principautés ou esprits de la personnalité. Et pendant que, pour ce qui est de leur vie intérieure, de leur nature, ces esprits passaient ainsi de l'état d'homme à celui de Dieu, ou plutôt de messagers des dieux, car c'est bien cela qu'ils sont. Pendant que ces êtres s'élevaient dans leur existence spirituelle, les planètes sur lesquelles et pour lesquelles ils vivaient se transformaient également. L'ancien Saturne, sur lequel les archées ont été hommes, avait un tout autre aspect que notre Terre. Nous avons dit dans la dernière conférence que sur la Terre, il faut distinguer quatre éléments: terre, eau, air, feu ou chaleur. Des trois premiers, il n'y avait pas trace sur Saturne. Seul existait alors le feu ou chaleur. Pour le penseur matérialiste, la chaleur ne peut se présenter qu'unie à des objets extérieurs. Il peut y avoir des corps solides chauds, de l'eau chaude, mais la chaleur ne peut pas exister pour elle-même. Voilà ce que croit le matérialiste. Mais c'est une erreur. Si avec nos sens d'aujourd'hui, on avait pu observer l'ancien Saturne, comment se serait-il présenté? Supposons à titre d'hypothèse qu'au temps de l'ancien Saturne, on ait pu voler à travers l'espace cosmique. On n'aurait rien vu là où se trouvait cet astre, mais on aurait eu l'impression d'entrer dans un espace chaud, comme dans un four. On n'aurait pas perçu le moindre souffle d'air, et il n'y avait pas non plus d'eau. On n'aurait pas pu se tenir debout, ni toucher quelque chose avec la main, car le solide n'existait pas non plus. Le globe tout entier n'était que chaleur, une planète de chaleur. Telle était notre Terre dans son tout premier état. Vous pouvez en déduire qu'Héraclite avait bien raison de dire que tout est né du feu. Oui, tout vient du feu. Et puisque la Terre n'est qu'une métamorphose de l'ancien Saturne, tout y est également venu du feu. C'était là une vérité qu'Héraclite avait apprise dans les anciens mystères, et c'est à cette vérité que fait allusion le récit d'après lequel il a dédié à la déesse d'Éphèse le livre dans lequel il l'a consigné. En déposant ce livre sur l'autel de la déesse, il se montrait conscient du fait qu'il était redevable de cette connaissance au mystère d'Éphèse, où fut toujours enseignée dans toute sa pureté la doctrine du feu primordial, de Saturne. Il va de soi que les êtres que nous appelons principautés ou esprits de la personnalité ont accompli leur stade humain dans des conditions tout autres que celles d'aujourd'hui. L'homme actuel a la possibilité d'incorporer à son organisme, à ses os, à son système sanguin, le solide, le liquide, le gazeux. L'homme de Saturne, l'esprit de la personnalité, devait former tout son corps de chaleur. Il n'avait en effet qu'un corps de chaleur. Je vous ai dit dans la dernière conférence que la chaleur a pour ainsi dire deux faces. L'une est celle qui est perceptible en tant que chaleur intérieure. Nous avons chaud ou froid sans avoir recours au contact d'un corps étranger. Mais nous pouvons aussi sentir une chaleur extérieure lorsque nous touchons un corps trop chaud. Ou chaud tout court. Or, l'évolution de Saturne a ceci de particulier que la chaleur, qui au commencement était uniquement interne, est devenue, vers la fin, extérieure, perceptible. Si vous aviez pu entrer dans l'espace saturnien tel qu'il était à l'origine, vous n'auriez ressenti aucune impression de chaleur sur votre peau. Mais intérieurement, vous vous seriez dit « comme il fait bon ici ». Vous auriez éprouvé quelque chose de semblable à ce que nous appelons aujourd'hui « chaleur d'âme », si vous aviez pu connaître ce tout premier stade de l'évolution saturnienne. On peut se faire une idée de cette expérience en pensant à la différence qu'on ressent lorsqu'on regarde une surface rouge ou une surface bleue. La couleur rouge donne une impression de chaleur, alors qu'en regardant du bleu, on a une impression de fraîcheur. Représentez-vous le sentiment que l'âme humaine peut éprouver à la vue d'un beau rouge, sentiment qui n'aurait évidemment pas pu exister à l'époque. c'est cette impression de chaleur agréable que vous auriez eue. Or, à la fin de l'évolution saturnienne, vous auriez eu non seulement cette impression de bien-être intérieur, mais en plus celle d'une chaleur venant du dehors. La chaleur intérieure s'est graduellement transformée en chaleur extérieure. Tel est le chemin parcouru par Saturne. De la chaleur interne, psychique, à la chaleur externe, au feu perceptible, tel que nous les connaissons. De même que l'enfant devient peu à peu un adulte en passant par toutes sortes d'expériences, les esprits de la personnalité se sont développés sur l'ancien Saturne. Ils ont tout d'abord senti la chaleur intérieure qui leur a donné une impression de bien-être, puis, peu à peu, ils ont aussi perçu cette chaleur comme extérieure à eux, comme s'étant réalisée, ayant pris corps pour ainsi dire. Que s'est-il alors produit ? La chaleur intérieure du globe saturnien a d'abord donné aux esprits de la personnalité la possibilité de s'y incarner. Puis, s'est formée, pendant ce processus, la chaleur extérieure. Si l'on avait pu voyager à travers Saturne à un stade plus tardif de son évolution, on aurait pu y distinguer des endroits chauds et d'autres plus froids. Si on voulait dessiner les corps de chaleur qui existaient, on pourrait le faire de la façon suivante. À la périphérie, la surface de Saturne était entièrement formée d'œufs de chaleur. Vu du dehors, si on avait pu les voir, on aurait dit des sortes de murs ou de framboises. Qu'étaient donc ces œufs ? C'étaient les corps des esprits de la personnalité. Et par leur chaleur intérieure, ces esprits produisaient la chaleur extérieure de ces œufs saturniens. De cet état de choses, on peut dire à juste titre que ces esprits ont couvé la chaleur, qu'ils ont vraiment fait éclore les premiers corps de feu. Ceux-ci ont été couvés à partir de l'espace universel. Dans la chaleur ambiante, les œufs de chaleur se sont coagulés sous l'action du feu venant de l'intérieur. C'est ainsi que, sur l'ancien Saturne, les esprits de la personnalité, les archées, qu'on appelle aussi Asuras, étaient incarnés dans ces corps de feu. L'astre lui-même était uniquement constitué par l'élément feu. Or, ces esprits de la personnalité avaient aussi, à cette époque de l'évolution saturnienne, la possibilité de ramener la chaleur extérieure à l'état de chaleur intérieure par un processus lié à leur mobilité interne. En fait, ces esprits produisaient sans cesse des œufs de chaleur, puis les dissolvaient. Vous pouvez vous représenter ce processus d'une façon encore plus précise. Supposez toujours que vous voyagez à travers Saturne. Vous remarqueriez maintenant qu'à certaines époques, aucune chaleur extérieure n'était perceptible, et que seule existait la sensation de bien-être, de feu intérieur. Puis, qu'à d'autres époques, des œufs de chaleur apparaissaient de nouveau. Vous auriez ainsi perçu quelque chose comme la respiration de l'ancien Saturne, mais une respiration de feu. Toute chaleur extérieure ayant disparu, tout n'étant plus pour vous que sentiment de bien-être, vous vous diriez que Saturne respire, réaspire sa chaleur. Et si à un autre moment vous aviez retrouvé tous ces œufs de chaleur, vous penseriez que Saturne a maintenant expiré sa chaleur intérieure et qu'elle est devenue feu extérieur. Or, c'est cette image que les saints rishis évoquaient pour leurs disciples. Ils les ramenaient en esprit, pour ainsi dire, à l'époque de l'ancien Saturne, et leur faisaient sentir que toute une planète accomplit un processus qui ressemble au rythme actuel de notre respiration. Ils éveillaient en eux l'image d'un feu qui s'exhale vers le dehors et devient d'innombrables corps de chaleur, puis, étant réaspiré, intériorisé, devient l'égoïté, le moi des esprits de la personnalité. cette vie de la planète était ainsi comparable à une respiration. Mais ce n'était sur Saturne qu'une respiration de feu, car l'air n'existait pas encore. Supposons maintenant que le fait suivant se soit produit. Tous ces esprits de la personnalité sur l'ancien Saturne auraient continuellement expiré puis réaspiré de la chaleur. Ils auraient ainsi passé par leur évolution saturnienne normale, et ceci aurait eu pour conséquence qu'après quelque temps, tout aurait été réabsorbé, ramené à l'état de chaleur intérieure. Saturne aurait disparu en tant que planète de feu, aurait été réabsorbé par le monde spirituel. Cela aurait pu arriver. Alors, nous n'aurions jamais eu les stades suivants, ceux de l'ancien Soleil, de l'ancienne Lune et de la Terre, puisque tout ce qui avait pu être expiré aurait été retransformé en chaleur intérieure et serait retourné dans le monde spirituel. Nous allons maintenant nous exprimer d'une façon familière, mais qui rendra ces choses plus compréhensibles. Certains esprits de la personnalité ont préféré, pour ainsi dire, ne réaspirer qu'une partie de la chaleur expirée, en laisser toujours un reste, de sorte que les œufs saturniens ne se sont pas tous dissous. Quelques-uns ont subsisté. Si bien que sur Saturne, une dualité s'est formée peu à peu. La chaleur intérieure d'une part et la chaleur extérieure, dans les corps qu'étaient les œufs saturniens d'autre part. Tout n'a pas été réaspiré. Les esprits de la personnalité ont, pour ainsi dire, abandonné à elles-mêmes une partie de la chaleur expirée. Ils l'ont laissée au dehors. Pourquoi l'ont-ils fait ? Il leur a fallu le faire parce que sans cela, ils ne seraient jamais devenus hommes sur Saturne. En effet, que veut dire devenir homme ? Cela veut dire acquérir la conscience du moi, ce qui est impossible si l'on ne peut pas se distinguer de quelque chose d'extérieur à soi. C'est ainsi seulement qu'on est un moi. Ce bouquet de fleurs est là, je suis ici. En tant que moi, je me distingue de cet objet. Les esprits de la personnalité n'auraient fait que répandre éternellement leur moi dans l'espace s'ils n'avaient pas laissé en dehors d'eux-mêmes quelque chose qui allait leur opposer une résistance. Cette autre chose est à l'extérieur. Je me distingue de l'élément chaleur devenu objectif. Si les esprits de la personnalité sont parvenus à prendre conscience de leur moi, c'est parce qu'ils ont réduit une partie des êtres saturniens à une existence calorique purement extérieure. Ils se sont dit « Extériorisons quelque chose de nous-mêmes, laissons-le se répandre et subsister au dehors afin de nous en distinguer et d'éveiller ainsi en nous la conscience du moi. » Ils ont ainsi créé un règne à côté du leur, un reflet extérieur de leur nature intérieure. Mais ceci a eu pour conséquence que lorsque l'évolution de Saturne fut terminée, les esprits de la personnalité ne purent plus faire disparaître cette planète, comme c'eût été le cas s'ils avaient aspiré toute la chaleur. N'ayant plus la possibilité de reprendre ce qu'ils avaient exhalé d'eux-mêmes, ils ont été forcés d'abandonner à lui-même le champ d'action qui leur avait permis d'acquérir une conscience personnelle. À eux seuls, ils n'avaient pas le pouvoir de faire entrer Saturne dans l'état de pralaya. Il a donc fallu l'intervention d'esprits plus élevés pour provoquer cette dissolution et faire que se produise un état de transition, de sommeil, un pralaya. Une fois terminée l'évolution de Saturne, il s'était donc produit ceci. Les esprits de la personnalité avaient acquis la conscience du moi. Ils avaient réabsorbé une partie de la chaleur ambiante. Ils étaient parvenus à la conscience du moi au centre de leur être, et en revanche, ils avaient fait naître un règne inférieur. Ce qu'ils ont ainsi abandonné, les trônes qui intervinrent alors, l'ont dissous, et Saturne est entré dans une sorte de nuit planétaire. Un nouveau jour se lève ensuite où tout va se réveiller en quelque sorte, selon des lois que nous apprendrons peu à peu à connaître. Si toute la substance calorique de l'ancien Saturne avait été réaspirée, si toute la vie saturnienne avait été reprise par le monde spirituel, ce réveil n'aurait pas eu lieu. Or, les trônes purent bien dissoudre pour un certain temps ce que les esprits de la personnalité avaient tiré d'eux-mêmes en tant qu'œuf de chaleur, mais pour quelque temps seulement. En vue d'une future évolution, ces œufs ont dû réapparaître à un niveau inférieur d'existence. Un nouveau jour planétaire est donc apparu. C'est la première métamorphose de Saturne, l'état solaire. Qu'est-ce qui renaît alors? Les esprits de la personnalité reviennent de l'ancien Saturne après que la planète a passé par l'état de sommeil. Ils possèdent maintenant la conscience de leur moi et n'ont plus besoin de repasser par les mêmes expériences. Mais les œufs de chaleur qu'ils ont expirés sur Saturne réapparaissent peu à peu et se différencient de la masse générale, ce qui a pour conséquence que les esprits de la personnalité se trouvent liés, pour ainsi dire, à ce qui est sorti d'eux. S'ils avaient tout emporté avec eux dans le monde spirituel, ils n'auraient pas été liés au soleil, forcés de redescendre. Ce qu'il leur a fallu faire pour s'occuper de la partie de leur ancienne nature qu'ils avaient abandonnée. Celle-ci les a entraînés vers une nouvelle existence planétaire. C'était là le karma de Saturne, le karma de l'univers, le karma du cosmos. N'ayant pas tout réabsorbé sur l'ancien Saturne, les esprits de la personnalité se sont préparés à un karma qui les a obligés à revenir là où ils retrouvent leur propre créature, tel un héritage de l'ancien Saturne. De ce fait, se produit alors ce dont il a déjà été question dans la conférence précédente. La chaleur se divise d'une part en lumière, d'autre part en fumée. Dans ce Saturne ressuscité, dans la nouvelle planète, il est sorti des œufs de chaleur un élément gazeux, air ou fumée, peu importe comment on l'appelle. Tandis qu'est apparue la lumière et que la chaleur est retournée, pour ainsi dire, à un état supérieur. Il y a, à l'intérieur de l'ancien Saturne métamorphosé, la fumée, le gaz, l'air et d'autre part la lumière. Si, ayant voyagé à travers les espaces, on était parvenu à l'endroit où se trouvait cet ancien soleil, on aurait perçu, de loin déjà, de la lumière, parce que derrière elle se condensait la fumée. On aurait vu, sinon de la lumière, du moins un globe lumineux, tout comme l'ancien Saturne avait été globe de chaleur. À la surface de ce globe lumineux, et même à l'intérieur, on n'aurait pas seulement perçu de la chaleur, mais des vents, de l'air, des courants gazeux allant en tous sens. C'est ainsi que le globe de chaleur s'est transformé en globe de lumière. Un soleil a pris naissance. C'est à bon droit qu'on l'appelle soleil, car les soleils d'aujourd'hui passent encore par ce processus. À l'intérieur, ils sont constitués de courants gazeux et le gaz devient lumière vers le dehors. Ils répandent la lumière dans l'espace universel. Alors seulement, la lumière apparaît à ce stade de métamorphose où se trouve la Terre. Alors seulement, c'est la naissance de la lumière. Les esprits de la personnalité étaient devenus hommes dans la chaleur de l'ancien Saturne. Dans la lumière qui rayonne maintenant du soleil, d'autres esprits peuvent le devenir. Ce sont les entités de la hiérarchie spirituelle qui, pour nous, est celle des archanges. En fait, si un clairvoyant d'aujourd'hui s'était approché du soleil, il n'en aurait pas seulement vu rayonner de la lumière. Dans cette lumière, il aurait distingué les actions des archanges. Mais, pourrait-on dire, ceux-ci ont dû par-dessus le marché se charger d'autre chose encore. Les esprits de la personnalité avaient trouvé du feu, rien que du feu sur l'ancien Saturne. Les archanges, qui n'ont pu devenir hommes que sur l'ancien soleil, y ont trouvé en outre de la fumée, du gaz. Que leur fallait-il faire pour rester en contact étroit avec le soleil, pour y établir leur demeure? Ils ont formé leur nature intérieure avec de la lumière. Ils se sont fait une âme de lumière à laquelle ils ont adjoint un corps extérieur fait de substances gazeuses. Tout comme aujourd'hui, nous avons un corps et une âme, ces archanges, en tant qu'hommes sur le soleil, avaient une nature intérieure capable d'émettre de la lumière et un corps extérieur physique composé de gaz et d'air. Alors que le corps humain actuel est constitué de solide, de liquide, d'air et de feu, celui des archanges était fait d'air à l'extérieur et de lumière à l'intérieur. Mais bien entendu, l'élément feu existait également. C'était même lui qui se transformait en lumière et fumée. La nature de ces archanges consistait donc en lumière, fumée et feu. Par la lumière, ils vivaient vers le dehors, ils exhalaient dans l'espace universel une force lumineuse. Par le feu, ils vivaient à l'intérieur d'eux-mêmes, dans le bien-être de la chaleur. En vivant dans un corps de gaz, ils participaient à la vie de la planète elle-même. Mais il leur était possible de distinguer leur propre corps de gaz de la substance solaire en général. Ils se heurtaient ainsi à quelque chose d'extérieur, ce qui éveillait en eux une sorte de conscience d'eux-mêmes. Or, cette conscience ne pouvait aller en se développant que si ces archanges se plaisaient à demeurer dans leur corps de gaz, de fumée, ou du moins à le faire durer au sein de la substance solaire. Car sur cet ancien soleil, les archanges pouvaient alternativement absorber toute la substance gazeuse de leur environnement, puis la rendre à la substance solaire. C'était là un véritable phénomène de respiration. Dans la substance gazeuse se produisaient des courants qui auraient pu être perçus comme une sorte de respiration. Des phases de calme absolu correspondaient au moment où les archanges aspiraient toute la substance gazeuse. Puis ils l'expiraient et des courants s'y formaient, tandis que de la lumière apparaissait simultanément. Telle était l'alternance des états solaires. Les archanges aspiraient toute la substance gazeuse, et c'était alors le calme absolu, mais aussi l'obscurité, la nuit solaire. Ils expiraient cette substance, et le soleil se remplissait de courants gazeux, mais en même temps, ils rayonnaient vers le dehors, et c'était le jour solaire. Le corps tout entier du soleil respirait. Expiration, qui donnait le jour solaire, illumination du monde ambiant, puis aspiration, qui donnait la nuit solaire, obscurité dans tout l'univers ambiant. Vous voyez ainsi la différence qu'il y a entre l'ancien soleil et le soleil actuel. Celui-ci brille continuellement, et l'obscurité ne se produit que lorsque quelque chose s'interpose devant sa lumière. Il n'en était pas ainsi pour l'ancien soleil. Il avait en lui la force d'être tour à tour lumineux et obscur, de briller puis de s'éteindre. C'était là, en somme, sa façon de respirer. Représentons-nous bien maintenant ce qui s'est passé extérieurement, visiblement. Considérons l'état d'expiration. La lumière se répand, mais par contre, le soleil se remplit de fumée. Des courants de gaz, de fumée forment des figures régulières. À chaque expiration, un certain nombre de ces formations s'insèrent dans la substance solaire. Ce qui autrefois était simplement en forme d'œuf est transformé en toutes sortes de figures régulières. D'extraordinaires formations, faites d'air et de fumée, douées de vie et de régularités intérieures, apparaissent. Si cette expression m'est permise, je dirais que les œufs sont prêts d'éclore. Il s'est passé quelque chose qui peut vraiment se comparer à ce phénomène de densification. De même que le poussin sort de l'œuf, L'œuf de chaleur s'est ouvert et des formes gazeuses régulières en sont sorties. Ces figures sont les corps les plus denses des archanges. Ceux-ci peuplent le soleil de ces corps de fumée, d'air. C'est ainsi qu'ils sont hommes et, pour ainsi dire, parcourent le soleil. Nous rencontrons ici la notion spirituelle d'une étoile fixe, d'un soleil cosmique, qui est le soleil en quelque sorte par sa propre force, qui fait alterner par lui-même le jour et la nuit. Telle une respiration, il fait alterner la clarté et l'obscurité, car le soleil est alors une étoile fixe. Tout ce qui brille par soi-même dans notre espace universel y répand non seulement la lumière, mais aussi la vie de messagers spirituels, les archanges. Qu'avaient donc produit les archées, esprits des origines ou de la personnalité, par leur propre évolution? Ils avaient permis l'apparition du soleil. C'est parce qu'ils ont abandonné sur Saturne les œufs de chaleur que Saturne a pu devenir soleil. Sinon, il n'y aurait eu dans l'évolution que Saturne, et sur Saturne, les archées. Sur le soleil, les archanges ont eu la possibilité de passer par le stade humain. Ils ont été les annonciateurs qui ont pu dire à l'univers « Les principautés, les esprits de la personnalité nous ont précédés. Nous, leurs envoyés, par la lumière rayonnante, nous témoignons que le Saturne de feu a existé jadis, pure chaleur intérieure. Nous sommes les messagers, les envoyés des archées. » Angelos veut dire messager, envoyé. Archai veut dire les primordiaux, les principes. Ces archanges n'étaient donc que les messagers qui donnaient connaissance au monde des actions accomplies par les esprits des origines ou archai dans le passé. Ce sont ces anges du commencement, ces archanges qui ont donc été hommes sur l'ancien soleil.